On peut faire ça pendant 24 heures pour cause.
Non. On enregistre pendant 24 heures, on fait ça genre alternativement 40 minutes ou 3 heures et c'est Thierry qui dérush.
Ah ouais. J'aime bien l'idée. Je prends. Bonjour et bienvenue dans Certains les Machos, l'émission qui revit les bons moments à la sortie. C'est mignon.
C'est tout mignon.
Aujourd'hui, on a 2 semaines de films d'un coup parce qu'il faut bien rattraper ce dont on n'a pas parlé durant la semaine du film coréen. Je vous invite à aller écouter l'épisode d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette semaine, pas mal d'épisodes un peu nostalgiques, n'est-ce pas? On a notamment La Belle Époque,
Le Mans 66 de James Mangold.
J'accuse avec Jean Dujardin et Louis Garrel.
J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin.
Adult in the Room de Costa Gavras.
Little Joe de Jessica Hausner.
Countdown de Je veux même pas savoir qui. Mais alors, mais même pas.
Mais,
alors...
mais comment tu biaises la vie en avance? Oh là là! Mais est-ce qu'on n'a pas aimé? C'est ça, qu'est-ce que tu chantes? Et Fury de Olivier Aou.
Bien, la DeLorean est prête, elle est garée en double fil. On y va tout de suite.
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps.
Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub.
Concernant l'époque, vous avez une idée?
Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup.
Tu te souviens, Thierry, l'époque où on était que tous les deux?
L'époque où on cabotinait, où on coupait le son inopinément, où on maîtrisait mal nos intros.
Où tu parlais loin du micro.
Où je dormais pendant les films.
Ah, c'était La Belle Époque. Mais aujourd'hui, La Belle Époque, c'est un film de Nicolas Bedos.
Ce cher Nicolas.
Cette fois-ci, sans Nicolas Bedos. Contrairement à son précédent Monsieur et Madame Adelman.
Tout à fait.
Cette fois-ci, c'est avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier et Fanny Ardant. Victor, qui est un peu dépassé par l'époque, hein, Victor incarné par Daniel Auteuil, et avec sa femme ça marche pas trop, parce qu'elle est éprise de modernité, et elle en a marre de son vieux mari qui s'ennuie, qui est complètement ringard, on peut le dire, et donc elle va pour le larguer, et en même temps, Antoine, un jeune ami de leur fils, de son fils, va proposer à Victor de revivre une journée à une époque souhaitée, celle qu'il désire, car il a monté un service de reconstitution historique avec des comédiens, des décors et autres, et il recrée le moment que l'on souhaite, que l'on désire. Victor va choisir de revivre le jour où il a rencontré sa femme. C'est beau, non? C'est romantique?
Tellement. Ce qui m'hallucine avec Nicolas Bedos, en fait, c'est comme quand j'avais vu Monsieur et Madame Adelman, c'est sa capacité à créer des pitchs et avoir des idées, mais qui sont totalement nouvelles, en fait. Et là, cette idée-là d'une entreprise qui fait des reconstitutions historiques ou pas, selon l'époque que tu choisis, qui met tous les moyens pour que tu revives à un moment donné, ou que tu sois un personnage historique, ou pour que tu sois... Voilà. C'est fantastique, quoi. C'est une machine à voyager dans le temps sans la machine, quoi. Axer une comédie romantique sur voilà, un personnage qui, après avoir quitté sa femme, veut repartir dans un état nostalgique où il l'a rencontré, l'époque où il l'aimait, l'époque où il était fou d'elle. Où,
celle qui le fout dehors.
Celle qui le fout dehors, oui. Non, voilà, ça, où... elle représentait tout ce qu'il aime et qu'il pense encore aimer. C'est une super idée, quoi. C'est une super idée. Et on n'a pas vu ça. Moi, je pense à Mon Inconnu, cette année, d'Hugo Gélin, qui, pareil, proposait un angle assez innovant. Et je suis content de voir des comédies romantiques françaises qui tentent de nouvelles choses. Et surtout, mais qu'est-ce que le film est ambitieux à souhait, quoi. Tu sois le budget à l'écran, c'est beau, ça cherche, la mise en scène est propre, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir et ça fait aussi penser, moi, ça m'a fait penser au Truman Show. Parce qu'on a un personnage qui est réel, entre guillemets, qui joue sa vie, sa vraie vie à lui, mais c'est du reconstitué, c'est du carton-pâte autour, c'est des acteurs autour de lui. Il y a quelqu'un qui est dans une cabine, qui est dans une régie, en train de voir, d'envoyer la pluie au moment où il faut envoyer la pluie, à parler dans l'oreillette des acteurs pour leur dire « à ce moment-là, tu balances telle réplique ». Il y a ce côté vrai et faux, et manipulation de la réalité
manipulation de la réalité à la Truman Show un peu, à laquelle on pense immédiatement. Après, ça m'a fait penser à d'autres références peut-être un peu plus modernes comme Westworld, où on est dans un faux décor, qu'on rejoue aussi l'époque du Far West cette fois-ci, puis d'autres époques plus tard, mais dans un côté peut-être plus agréable, où là on veut pas se prendre la tête sur le côté de l'humanité, mais sur le côté reconstitution d'un mouvement historique et de refaire le passé, quoi.
En effet, le Truman Show, je suis d'accord, même si là, pour le coup, on a le côté, bah, c'est le personnage qui accepte lui-même d'aller dans une époque, il n'est pas enfermé dans le truc, il est au courant.
Oui. Éthiquement, c'est quand même mieux.
Éthiquement, c'est quand même mieux, on n'est pas dans le viol d'un personnage. Et n'oubliez pas, le Truman Show, c'est pas parce qu'il y a Jim Carrey qui fait des blagues, ce n'est pas une comédie. Hein, la prochaine fois que j'entends ça, je défenestre la personne. Bref. Moi, ça m'a fait penser, un truc à la con, en fait, c'est tout le rapport aussi qu'il y a au cinéma. C'est-à-dire que donc, tu as le personnage de Guillaume Canet, qui est le mec qui va diriger ça, qui va diriger chacune des oreillettes des acteurs qui sont là. Ils n'ont pas tous des oreillettes, les personnages très secondaires, non, mais tous les personnages qui vont interagir avec le mec qui a payé le service vont avoir une oreillette. Et donc, on va leur dicter ce qu'ils doivent dire quand ils ont des hésitations. Par exemple, il y a un moment où il lui demande « Oui, c'est qui le ministre des Finances à cette époque ?» Pof, les mecs, ils cherchent sur Wikipédia, ils lui donnent direct l'information. Il y a ce côté-là et c'est un tirant, le gars, tu fais une mauvaise réplique, t'as un mauvais, bon, particulièrement avec le personnage de Doria Tillier, parce qu'ils ont une relation amoureuse, mais il est infect avec elle. Et moi, ça m'a fait penser, et c'est pour ça que ça me fait marrer que tu penses à Westworld, ça m'a fait penser à un épisode de South Park qui s'appelle Une journée chez les cowboys, où t'as les gamins qui vont juste visiter un ancien village du Far West, et il y a un attentat terroriste en plein milieu du truc, et les mecs qui tiennent le truc ne veulent pas sortir de leur personnage. Donc quand t'as les mecs qui disent « Dites-nous où est le coffre ?»« Ah oh, mais il y a pas de coffre ici, mon jeune homme, on est des cow-boys !» Et tout. Et voilà. Et ça m'a fait penser à ça, avec cette espèce de tyran qui leur gueule tout le temps dessus. Si tu sors du quand les mecs sortent du caractère, ils les butent. Et du coup, j'étais là, je pensais à Guillaume Canet qui poussait ses gueulantes énormes parce que la personne pleurait trop ou riait trop, et je me disais « ça me fait trop penser à ça, quoi. »
C'est un metteur en scène.
Ouais,
tout simplement.
Canet qui a eu tendance à pas mal m'agacer dernièrement, même si finalement j'aurais bien aimé voir Au nom de la Terre, qui paraît-il est très bien. Je l'ai adoré dans ce rôle et j'ai trouvé que ça lui collait très 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 bien, cette espèce de regard de chien battu constant qui est totalement déprimé par la vie et qui du coup déverse sa haine et sa colère sur les autres parce qu'il n'arrive pas à être heureux. Il est très très bon là-dedans, quoi. Ça fait penser au Grand Bain du coup.
Il incarne très bien Nicolas Bedos, Guillaume Canet.
Il incarne parfaitement Nicolas Bedos, quoi. Le côté abject de Bedos que j'aime pas en général, il est là. Mais par contre, ce mec, putain, qu'est-ce qu'il écrit bien, quoi. Ses dialogues sont bons, tout n'est pas égal. Je trouve que c'est peut-être un peu moins maîtrisé au niveau du dialogue que Monsieur et Madame Adelman, mais c'est dans le postulat, c'est dans l'avancée, c'est dans la narration et la trame principale que c'est brillant, quoi.
Et dès qu'il faut dire du mal des gens, là, on reconnaît la plume, là.
Ah oui, oui, c'est clair. Ça fait limite penser au passage qui sont sympas dans Mon Cher Stupide. Tu sais. Là, tu sens qu'il y a de la verve, là. Fanny Ardant, elle a des tirades. En plus, il y a le côté, tu pourrais penser que c'est très verbeux, très théâtral, très écrit, mais vu que la nana est une psy, donc c'est une nana qui est très verbeuse naturellement, qui aime bien faire ses citations. Donc du coup, quand Fanny Ardant se lâche en réplique, c'est savoureux, elle est exceptionnelle, quoi.
Et en plus, oui, alors elle joue une psy, elle est tellement dans la modernité qu'elle a lâché tous ses clients. Maintenant, elle a donné sa voix pour une application de psy elle répond à des gens, mais par reconnaissance vocale, en fait. C'est un ordinateur qui parle, qui répond avec sa voix, et elle répond aux questions qu'elle reconnaît par reconnaissance vocale. Par moments, quand elle était dans ses tirages, justement, quand elle pourrit son mari, je voyais Nicolas Bedos, en fait, à sa place.
Nicolas Bedos, oui, voilà, il met beaucoup de lui-même dans chacun des personnages. Au final, il met une part de lui-même. Et ce qui fait que les personnages ont énormément de consistance aussi, ce qui fait que tu crois à ces personnages. Même le duo Auteuil-Tillier, enfin, surtout Daniel Auteuil, que c'est celui qu'on voit le plus, il est fantastique, quoi. Et c'est vrai que c'est cool parce que tu vois même une nana comme Fanny Ardant qui est un personnage secondaire, même si elle fait partie des protagonistes principaux, elle est hyper présente. Et même, voilà, enfin, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a une panoplie de personnages qui sont chouettes et les personnages secondaires sont touchants. Moi, je pense au personnage de Pierre Arditi. On nous le présente comme...
Pierre Arditi, quand on le rencontre, c'est un client, mais c'est marrant, c'est un client qui partage le même rêve, la même scène, en gros, comme ça, ça fait des économies de décor. Et c'est ça, moi, ça m'a fait penser à Palace un peu. Tu vois, il y a deux clients qui se retrouvent au Palace, voilà. Vous aussi, ça vous coûte une blinde? Oui, oui. Ah, ben voilà.
Quand ils se sont mis à parler et qu'ils se disaient, alors, vous, c'est quoi votre scénar? Ah, vous, c'est ça? J'étais là, on est dans un film de Bertrand Blier, là, qu'est-ce qui se passe? Genre, plus dans les acteurs que qu'on voit exceptionnels, tu vois. Même si c'est les mêmes thèmes. Mais donc, du coup, le personnage de Pierre Arditi donc, est un client qui. Enfin, on nous présente comme un client qui veut juste revivre les derniers instants avec son père avant que ce dernier ne décède. Et c'est tellement touchant. Enfin, le passage où juste tu vois les mecs mettent de la musique dans l'oreillette du mec qui joue le père pour qu'il puisse pleurer. Mais juste à chaque fois que tu vois Pierre Arditi qui serre son père dans ses bras, c'est magnifique, quoi.
Attention, je crois qu'ils mettent la musique pour tout le monde.
Ah d'accord, je crois que c'est dans l'oreillette.
Oui, c'est un film. C'est-à-dire que quand ils mettent la musique, ils mettent la musique. Ils montent les haut-parleurs pour tout le monde.
J'étais persuadé que c'était l'oreillette. Mais en tout cas, voilà, l'acteur demande. Enfin, en plus, devant le client, il fait, vous pouvez mettre de la musique pour que je chiale, quoi. Et ils lui mettent et ils pleurent. Et chaque fois qu'on revoyait juste de temps en temps les deux gars qui qui se serre dans les bras. J'ai trouvé ça super touchant, c'était hyper émouvant quoi. Du coup ouais, même un petit gimmick comme ça qui fait juste partie de l'arrière-fond, c'était super touchant parce que c'est bien écrit quoi.
Et en même temps, c'est super triste parce qu'on revoit la scène plusieurs fois et c'est jamais le même père. Bon.
Ouais. Ah oui, les changements d'acteurs intempestifs parce que certains n'acceptent pas de revenir jouer tous les soirs, c'est marrant.
Ou ne peuvent pas, ou voilà. Ah ouais. La belle époque du beau cinéma.
Ouais. Mais clairement du beau cinéma, quoi.
On vous le conseille.
Morning, Shelby.
Morning, Molly.
I'm yours.
I'll go to hell.
That's it, folks. Ferrari wins the 24 Hours of Le Mans for the fifth consecutive year.
Mr. Ford, Ferrari has a message for you, sir.
What did he say?
He said Ford makes ugly little cars in ugly factories. And he called you fat, sir.
We're gonna bury Ferrari at Le Mans.
1965, Ferrari domine outrageusement les 24 heures du Mans depuis maintenant 5 ans. Ford en a marre. Henry Ford, deuxième du nom, en a vraiment marre et il veut sortir le pognon et gagner la course. Il embauche donc Carroll Shelby, interprété par Matt Damon, pour construire la voiture capable de battre une Ferrari. C'est le pitch de Le Mans 66 ou Ford versus Ferrari, un film de 2h32 et non pas 24h, wow. Avec Matt Damon jeudi et Christian Bale dans le rôle de Ken Miles, le pilote malheureux de cette édition 1966 du Mans. Voilà, 66, c'est la première fois qu'un constructeur américain va remporter les 24 heures du Mans avec la fameuse Ford GT40 conçue pour l'occasion. Avec moi, Karl.
Salut, je n'y connais rien en voiture.
Une autre experte en voiture, Hera.
Salut, t'es tellement loin de la vérité, mon dieu.
Quatre roues, une boîte, on est dedans, c'est ça, basiquement.
C'est ça, basiquement, c'est ça, c'est ça. Et Thierry, toujours. Un film de James Mangold, le réalisateur de Logan, Walk the Line, Night and Day.
Copland, surtout.
Est-ce un hard trick? Remporte-t-il haut la main cette édition? Le Mans 66, c'est une édition où Ford a outrageusement dominé la course en se permettant de ralentir à la fin pour aligner ses trois voitures sur la ligne d'arrivée. Le Mans 66 est-il aussi clinquant que la bande-annonce nous l'annonce? C'est normal pour une bande-annonce qu'elle annonce.
C'est marrant que tu as, quand tu fais le pitch, alors je vous rassure c'est le cas, on dirait un énorme concours de beats entre deux écuries. C'est un énorme concours de beats de 2h30. Heureusement qu'il y a de la nuance, parce que ce qu'il faut quand même expliquer, ce qui est important pour la compréhension scénaristique, c'est que malheureusement pour les constructeurs de bagnoles de course, tout leur marché va avec. C'est-à-dire que si leur bagnole gagne, ça évoque beaucoup. Ça évoque des choses aux gens, les gens achètent des bagnoles Ford. Et là, Ford, ils sont au bord de la rupture, ils sont au bord de la faillite, ils sont au bord justement de se casser méchamment la gueule, quoi. Même s'ils font beaucoup de bagnoles, ils évoquent plus rien et ça commence à partir en vrille. Ça joue aussi. Je veux dire, faut pas oublier ça, il y a quand même un peu de contexte politique derrière et mercantile. Mais ça reste un concours de bites de 2 heures. C'est super sympa à regarder. Ça pouvait être long, redondant et bon, on sent la longueur, mais je ne l'ai pas subi. Donc moi, je suis assez content. J'ai trouvé ça bien foutu. La retranscription est juste. C'est assez fun à regarder. Ça joue sur les clichés, mais c'est plutôt marrant. Tout le monde s'en donne pas mal à cœur joie. Christian Bale cabotine pas mal, mais il s'éclate. Et il est très investi dans son personnage, comme souvent. Matt Damon aussi. J'ai plutôt plaisir, parce que c'est quand même le duo de tête. Et c'est un petit plaisir à regarder. C'est le genre de truc qu'on va oublier sûrement assez vite. Mais dans tous les films de course de bagnole, non, ça fait partie du haut du panier, je pense également à Rush, on fera peut-être une comparaison après, mais c'est plutôt sympa.
Oui, bah, c'est le film biographique de la fin d'année, qui en général c'est vraiment est-ce que ça marche ou pas quoi. La seule question c'est est-ce que t'as passé un bon moment. Moi plutôt, c'est un truc très académique, ça va pas révolutionner votre vision de la réalisation ou du scénario, c'est on se met dans la voiture, on se laisse piloter quoi.
Ouais, c'est un peu ça, il y a pas beaucoup de choses à dire, c'est un peu en le voyant, ça m'a quand même rappelé un petit peu de Joy, mais pas du tout par rapport au film, juste par rapport au fait qu'on arrive à te faire un biopic sur quelque chose dont sur le papier t'en as rien à foutre, mais on ne sait pas comment ils arrivent quand même un peu pour te passionner pour ça. Bon, Joy, c'était la Serpillière. Au départ, aucun intérêt. Finalement, lourd kiff. Et là, c'est un peu pareil. Bon, ça va pas aussi loin dans le kiff, en tout cas pour ma part, parce qu'entendre des voitures gronder pendant 2h30, généralement, ça tend à vite me saouler. Mais il y a 2-3 choses qui ont du charme. Et je voudrais mettre un petit accent sur le personnage de Molly, qui joue la femme de Ken Miles, le conducteur. qui est, alors pas tant pour le jeu d'acteur, mais en tout cas pour le rôle qu'on lui a donné, qui a son petit caractère. Et c'était plutôt cool d'avoir des personnages secondaires qui avaient aussi leur caractère, comme aussi le patron de Ferrari, donc je sais pas qui joue.
Enzo.
C'est Remo Girone qui joue Enzo Ferrari.
Voilà, qui a aussi sa petite patte, son petit impact. Et d'ailleurs, les interactions italiennes-américaines sont très drôles. Donc on passe quand même des bons moments de rire. Ça joue sur les clichés, ça tire à fond dessus. Mais pourquoi pas, après, à voir à quel point est-ce que ça raconte fidèlement l'histoire. C'est aussi ça qui peut avoir un intérêt, c'est quelle est la lecture qu'on peut en avoir derrière. On n'apprend pas grand-chose sur les voitures, mais on s'amuse.
Oui, alors moi j'avais un peu peur quand j'ai vu le film arriver. Parce que je me suis dit, aïe, on a eu Midway la semaine dernière, qu'on n'est pas allé voir parce que ça faisait un peu peur quand même, du Roland Emmerich, du bon patriotisme américain. Et là, j'ai vu, ouais, la victoire de Ford, d'un constructeur américain au Mans, America first, yeah, America, yeah. J'avais un peu super peur. Alors bon, il y avait Matt Damon et Christian Bale, alors bon, et puis James Mangold, ça m'a un peu rassuré, mais pas complètement. Donc je me suis dit, de toute façon, oui, on connaît l'histoire, Ford gagne sur Ferrari, donc les méchants gagnent à la fin de toute façon. Et en sortant du film, eh bien ça confirme que les méchants gagnent à la fin, parce qu'il y a un portrait qui est fait du patron de Ford, même de l'entreprise Ford en général, du conglomérat, du consortium Ford, de la grosse boîte en général, des grosses entreprises américaines, par rapport aux petits passionnés sur le terrain. Ça rappelle presque un film de guerre avec les mecs du commandement et les mecs sur le terrain. Il y a un langage guerrier à un moment. Ils disaient, allez les gars, c'est la guerre. Hein, il y a un parallèle qui est lancé ouvertement. Et finalement, il y a plus d'empathie pour Enzo Ferrari que pour Henry Ford deuxième.
Il garde un côté humble, il garde un côté petite maison familiale qui s'est totalement ruinée pour faire du bel ouvrage, qui certes veut gagner. Il a son ego, il a sa fierté, mais il veut gagner loyalement.
C'est pas tellement Henry Ford 2 qui est mal dépeint. Il y a quelques subtilités, il y a même, sans trop spoiler, une scène assez drôle, on le voit avoir des émotions. C'est surtout le vice-président, mais qui est l'archétype du costard cravate. On a un mec qui est en train de battre le record des 24 heures du Mans. On va le faire ralentir pour que les trois voitures passent en même temps. Et où tout le monde le regarde. Quoi ?
c'est le mec du marketing. En fait, ce sont des mecs qui vont concourir déjà l'année 65 et qui vont se faire pourrir par le marketing à toutes les étapes. Et du coup, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils réussissent à s'imposer l'année suivante et c'est comme ça qu'ils réussissent à gagner. En poussant les Ferrari à bout, justement parce qu'ils avaient les coups des franges. Sauf à la fin où le marketing lui dit, ouais, non, mais une photo avec trois bagnoles qui arrivent pareil sur la ligne d'arrivée pour vendre de la caisse, c'est bien quoi.
Et en sachant que ça baisera le gars qui est le moins présentable en photo. Oui, le perso de Christian Bale, il est assez sympa. Je sais pas pourquoi je l'ai autant aimé, mais il dit à tout le monde d'aller se faire foutre. Il insulte les gens qui l'emmerdent quand il essaie de taffer. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette affection pour lui.
Mais justement, tu vois, du coup, alors en fait, en niveau du traitement, c'est vrai que ouais, le côté America First, c'est clairement là, hein. On va pas se mentir, c'est très manichéen sur ce point-là, et c'est très dérangeant aussi. Mais bon, ce qui m'a dérangé, c'est vrai que c'est qu'on voit les adversaires qui sont humbles, du coup, c'est ce que je dis, même si c'est pas montré, en effet, oui, tu dis, les Italiens font sûrement des magouilles, mais ils sont pas montrés du tout, quoi. Même les pilotes, on s'en fout. Et c'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec Rush, qui était le dernier film que j'avais vu sur la Formule 1, qui, pour le coup, m'avait foutu une belle claque, parce que venant de Ron Howard, réussir à filmer des courses avec autant d'impact et de réalisme, c'était cool. Là, d'ailleurs, les courses, c'est superbe à regarder. Bref.
Elles sont tournées en vrai. C'est des vraies bagnoles qui tournent sur des vrais circuits. Alors, c'était pas au Mans. Ils ont reconstitué aux États-Unis, mais ce sont des vraies bagnoles qui tournent. Ouais. C'est une reconstitution pour être le plus vrai possible et utiliser justement le moins possible d'effets spéciaux numériques.
Ça se voit, ça se sent, c'est très beau à voir.
Je trouve que... désolé si je coupe ton développement. Je trouve que Rush avait un rapport plus proche à la route... Et à la mécanique de la voiture, ils en parlent beaucoup de mécanique, mais c'est plus, ouais, on va changer le moteur machin, cut, et le moteur est changé, on arrive. Alors que dans Rush, il y avait des plans qui avaient marqué où la caméra frôle le bitume, vraiment.
Justement, c'est bien que tu soulignes ça, parce que j'allais pas le dire comme tel. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on voyait les enjeux sur la dangerosité de la course, en fait, dans Rush. Là, on va voir un test où la bagnole va cramer, le mec s'en sort quasi indemne. On va refaire le truc, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai pas senti de danger pour ce personnage à aucun moment. Et il est tellement à l'aise, il est tellement bien. Même quand il a sa bagnole, tu vois, quand il a la porte de sa bagnole qui commence à partir en couille et une piste, il s'arrête au pit, on lui remet. Et on te parle pas de l'impact du vent, de l'impact que ça peut avoir sur la pesanteur, le côté justement quand tu prends un virage, c'est super dangereux d'avoir une porte qui part en couille. Non, on te dit juste, ah, il galère à fermer sa porte. Alors dans Rush, en même temps, ils ont pris le portrait de Niki Lauda, qui est quand même un mec qui a été entièrement brûlé. Puis du coup, t'avais le pilote qui était en mode, moi je suis un fifou, je vais à fond les ballons, et tant pis pour le risque. Et lui, c'était le gars qui voulait être très précis, très dans le recul, très dans on doit étudier exactement ce qu'il faut faire pour y arriver. Et surtout l'avantage c'est que c'était deux mecs qui s'affrontaient idéologiquement aussi, mais on montrait les deux. Les deux avaient leur part sombre, les deux avaient leur part lumineuse. Là, voilà, on s'intéressait vraiment aux deux. Là, on peut pas appeler ça Ford versus Ferrari quand on ne te traite que de Ford, en fait. C'est du coup, voilà, il n'y a pas d'enjeu parce que tu n'as pas d'antagoniste, à part c'est d'autres pilotes et il faut battre Ferrari.
La seule opposition, elle est entre les deux patrons et on voit qu'il y a deux philosophies de patrons et l'opposition est là. On a... Oui, alors c'est sûr que sur 2h30, on pouvait le développer plus que ça. Et on voit, comme on voit surtout les pilotes et les mecs qui vont monter la caisse et qui vont piloter, on voit très peu les deux chefs d'entreprise, les deux constructeurs, alors que le titre montre leur opposition là. Mais moi, j'aime bien l'opposition. D'un côté, on a un héritier qui engueule ses ouvriers à l'usine, à la chaîne, de haut, parce qu'il engueule tout le monde de haut et tout le monde est en bas et il fait son show. Il est très distant et il y a 36 000 collaborateurs avant de l'avoir. Et Enzo Ferrari, la première fois qu'on le voit, il est en train de bouffer au milieu de l'atelier où tout est fait à la main. Il est au niveau de ses employés et il est tranquille à la bonne franquette, quoi.
À mon avis, c'est pour ça que le film parle moins de l'opposition entre deux politiques que d'opposition entre, pour un réalisateur, l'artiste et le producteur, quoi. Parce que le vice-président de Ford, c'est clairement le... Non, mais les études de marché prouvent que s'il a les cheveux blonds au lieu d'avoir les cheveux bruns, on va peut-être perdre 10 000 places. Donc il faut absolument qu'il ait les cheveux bruns. Et en face, on va voir les gars qui à chaque fois font « Non mais vous êtes complètement cons, c'est nous qui savons piloter, laissez-nous tranquille deux minutes. Quand vous signez un chèque en blanc, ça veut dire un chèque en blanc, les gars. »
Non mais du coup, je pense à faire juste la liste de toutes les choses que tu peux faire en 24 heures au lieu d'être sur une putain de piste à conduire une bagnole. Et il y a beaucoup, beaucoup de trucs que tu peux faire pendant ce temps-là.
Non, moi, ce qui m'a tué, c'est quand on voit le démarrage de la course et que t'en vois un qui se fait défoncer à peine sorti du parking. Tu dis, mec, t'as attendu un an, tu t'es préparé pour 24 heures, ta voiture est morte.
Et oui, le beau vieux départ à l'ancienne.
Tu es déjà dernier, c'est mort. Ce sera pas pour toi.
En 24 heures, vous pouvez en faire des choses. Vous pouvez écouter la moitié des épisodes de Claque.
On a enregistré 48 heures de cette connerie. Wow.
Pas loin. Et ben finalement, ouais, le Mans 66, plutôt une bonne surprise.
Vous êtes désormais responsable du renseignement.
Colonel.
Si nous découvrons que Dreyfus n'est pas de traître, je pense que nous devrions agir rapidement dans l'intérêt de l'armée.
Bon Dieu, mon colonel, laissez tomber. Ce sont eux les chefs. Nous suivons leurs ordres.
Je ne veux pas d'une autre affaire Dreyfus.
Ce n'est pas une autre affaire Dreyfus, mon général. C'est la même. Où est le dossier secret sur Dreyfus? Désormais, je m'en chargerai personnellement. On intercepte mon courrier. Je suis constamment suivi.
Peux-tu prouver tout cela?
Je voudrais éviter un scandale.
C'est déjà un scandale.
Une des grosses sorties de ces 15 jours, voire même la grosse sortie, le film J'accuse avec Jean Dujardin et Louis Garrel, réalisé et coécrit par Roman Polanski, sorti entaché par l'actualité de Polanski qui l'a rattrapé.
Et l'historique de Polanski.
Exactement, voilà. Alors ici, on ne va parler que du film et on va s'abstenir de parler de l'actualité parce qu'on est un podcast de cinéma.
Même si c'est un film sur le thème de l'accusation, on va éviter les parallèles. Le film n'en dresse pas trop. J'ai pas eu l'impression que c'était Polanski qui se défendait.
Oui, voilà. Déjà, ça va au crédit du film. On va pas dans cette direction-là. Et d'ailleurs, en raison du réalisateur, Thierry a souhaité ne pas s'exprimer sur ce film. Donc, J'accuse, Roman Polanski, on l'a dit, avec Jean Dujardin dans le rôle du colonel Georges Picard, Louis Garrel dans le rôle du capitaine Dreyfus, Emmanuel Seignier en Pauline Monnier, la maîtresse du colonel Picard, Grégory Gadebois, Mathieu Amalric, Vincent Pérez, Denis Podalydès et bien d'autres, et notamment Vladimir Yordanov. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, Vladimir Yordanov, mais c'est le papa de Kostia, qu'on salue. Salut Kostia. Kostia qui nous a aimablement composé le générique de l'émission. Donc on le salue, on le remercie encore et on lui fait plein de bisous. J'accuse, le film retrace l'affaire Dreyfus d'après le roman D, tout court, de Robert Harris, qui a coécrit le film et qui avait également coécrit Ghost Rider de Polanski, et qui retrace assez fidèlement, bien que romancé, l'affaire Dreyfus, qui a chamboulé la politique française à la fin du... Oh, c'était 1800, donc c'était 19e siècle, voilà. Alors, belle reconstitution un peu scolaire, fresque historique, comment peut-on la qualifier ? Ira,
Ouais, reconstitution. Je vais pas vraiment critiquer quoi que ce soit sur le rapport à l'histoire de départ, parce que ça fait partie de ces éléments de l'histoire que je retiens pas, comme les trois quarts des éléments de l'histoire. Ça veut pas rentrer. Donc je vais plutôt... Enfin, moi, je vais plus s'exprimer sur le côté mise en scène et côté reconstitution visuelle, que j'ai trouvé plutôt bien réussi. On est sur un beau Paris, une belle époque, une reconstitution assez fidèle, enfin, par rapport à ce que je peux connaître de cette époque-là et observer. Une mise en scène qui est assez austère, qui est très grise, et une mise en place qui prend bien son temps et qui est très dans un rythme quand même très plat. Je connais mal les films de Polanski, je dois l'avouer, donc je sais pas à quel point est-ce que c'est fidèle à ce qu'il fait d'habitude. C'est, comme tu disais Thomas, vraiment très scolaire, et j'aurais pas beaucoup plus de choses à dire dessus, parce qu'en fait ça m'a pas du tout charmé. J'en suis restée à ça, je suis restée juste à regarder des belles lumières, des beaux plans, mais un bon jeu d'acteur, mais ça a pas été plus loin que ça du tout.
Karl,
moi qui connais l'histoire, je peux pas te le situer au jour près, mais je connais plutôt l'histoire. Je me suis assez violemment emmerdé. C'est pas le premier film que je vois sur l'affaire Dreyfus ou la première version de l'affaire Dreyfus que je vois. Et celle-là n'a vraiment intérêt que, ben, au lieu de se concentrer sur Dreyfus ou sur Zola, on se concentre sur le chef du renseignement qui s'est beaucoup battu pour lui, qui était responsable de la réhabilitation de Dreyfus. Et oui, ben, on le voit prendre son service, le remettre un peu en ordre. On voit que l'état-major ne le laisse pas bosser, ce qui va se passer très souvent. À chaque scène, pendant environ une heure et demie, on ne sait pas, peut-être plus, comment savoir.
C'est vrai que c'est très répétitif, cette phase de renseignement, cette phase d'espionnage.
Évidemment que c'est enfin, on sent la frustration du gars, et évidemment, c'est aussi un truc qui s'est passé sur des années, il faut qu'on ressente ça, mais c'est pas funky, quoi. Enfin, même, il y a un moment où il y a un duel, on se doute de pourquoi il est là, mais même le duel, c'est assez terne, assez gris, comme disait Hera, enfin, c'est...
Moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu un duel à l'épée à l'ancienne.
J'ai revu Barry Lyndon dernièrement, désolé.
Oui, voilà. Mais là où, sinon, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas vu un duel d'escrime comme ça. Bon, alors après, c'était pas avec des cascadeurs, donc évidemment, c'était filmé un peu de loin, donc c'était un peu plan-plan. Certes, c'était pas John Wick, d'accord.
D'ailleurs, sur le sujet, c'était pas des cascadeurs. Par contre, le casting est impeccable de A à Z.
Des gueules, des voix.
Ouais, ça c'est clair, ils sont tous parfaitement dans leur rôle, ça colle parfaitement à l'époque, il y en a même qui sont assez grimés que j'ai pas vraiment reconnu, je disais à la fin, je disais à Karl à la fin, ah tiens, Melville Poupeau, ah bah oui, c'est vrai, mais en fait pas du tout capté. Louis Garrel, incapable, je vois même pas, là j'arrive même pas à me souvenir de où est-ce qu'il était, donc c'est...
On l'a vu beaucoup quand même.
Ouais, je te jure, j'ai pas capté, tu vois. On en est là. Mais c'est rare que ça me fasse ça. Mais là, pour le coup, je n'arrive pas à savoir qui c'était.
Dreyfus.
Putain. Sérieux ?
Ouais.
C'est un personnage un peu important dans l'histoire.
Ouais, mais figure-toi. Ouais, mais attends, tu dis on le voit pas mal. Bah, en fait, non. En vérité, pas vraiment. Quand même.
Il faut savoir qu'au départ, quand ils ont écrit le film, au départ, ils voulaient suivre Dreyfus. Mais comme ils se sont aperçus que la plupart du temps, ils la passent sur l'île du Diable au bagne, ils n'auraient rien vu.
Il y a 5 ans sur l'île du Diable où tous les gardes ont interdiction de lui parler, le soir il enchaînait, ça aurait été encore plus lent et répétitif, mec.
Là, on suit Jean Dujardin, Georges Picard, donc chef des renseignements, nouveau chef des renseignements, qui s'aperçoit que l'enquête a été, bon ben, hop, on va pas dire bâclée, mais arrangée.
Clairement falsifiée, clairement, bon. C'est pour ça que c'était un si gros scandale. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé de haute trahison, donc dégradé, envoyé en prison sur l'île du Diable, c'est-à-dire un petit rocher au large de la Guyane où il n'y a personne. Et bah, en fait, c'était quelqu'un d'autre, sauf que l'armée, ne voulant pas admettre une erreur, et craignant pour son honneur et sa réputation, a décidé de protéger l'espion pour garder Dreyfus, qui était en plus coupable idéal, étant juif dans un climat antisémite et alsacien, à l'époque où la question de l'Alsace-Lorraine entre la France et l'Allemagne était en axe.
Voilà, donc une affaire hautement politique, d'où le fait qu'elle ait embrasé l'opinion publique à l'époque.
C'est là, c'est parce que c'est purement politique que c'était chiant comme ça, parce que...
Ouais, mais alors, du coup, moi, j'ai pas senti cette tension politique, parce que les gens venaient aux mains. Normalement, les gens viennent aux mains, et là, il y a juste Picard qui se fait agresser dans la rue une fois, mais ça va...
Il y a un assassinat.
Oui, mais il n'est pas expliqué, parce que c'est un assassinat célèbre, mais il n'est pas expliqué du tout.
Il n'est pas expliqué, mais bon, quand t'as trois mecs qui arrivent, un gars qui arrive avec un flingue qui tire une fois sur un seul et qui repart en courant juste le matin du procès où il devait témoigner, oui, on n'a pas franchement besoin de t'expliquer pendant 5 heures d'où ça vient non plus.
Ouais, mais dire un peu plus sur le témoin et plus exactement ce qui est son rôle dans l'affaire.
Ah oui, non, ça par contre, si tu sais pas, si tu connais pas l'affaire, le gars, tu sais pas pourquoi c'est important qu'il meure. Hein. Et surtout que bah, juste après sa mort, on enchaîne sur la suite et que ça se passe très bien.
Oui, alors très bien non, puisqu'il perd le procès, mais...
Oui, mais il perd le procès, mais 3 minutes après, on dit qu'il est gracié.
Oui, mais alors c'est ça, moi ce que je reproche, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un film en 2 parties. C'est-à-dire qu'on a la partie espionnage avec justement Jean Dujardin qui va enquêter et qui va se méfier de tout le monde dans les services secrets, qui va changer et tout, qui va être suivi, qui va chercher les pièces, les falsifications. Bon, il va se faire couillonner, il va être envoyé en Afrique et on va l'envoyer en mission suicide, mais il va s'évader. Enfin bon, bref. On ne verra pas la phase mission suicide, vous inquiétez pas, on reste plan-plan à Paris. Et il rencontre Zola par un pote d'un pote, ok. Il lui file les infos pour qu'il puisse écrire le fameux article « J'accuse » dans l'Aurore. Et à partir de là, hop, on bascule en film de procès. La phase film de procès est bien plus palpitante, je trouve, que la phase espionnage, ce qui est quand même paradoxal. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est plus courte et qu'elle est beaucoup plus rushée, alors que ça aurait été tellement plus intéressant finalement, parce que la phase d'espionnage est très répétitive. On s'acharne sur les mêmes pièces et sur les mêmes choses à chaque fois, j'ai l'impression. Et même si ça donne des petits détails intéressants sur le fait qu'on est sur des services secrets qui sont en pleine construction, plein de petits détails sur la modernité de l'époque, entre guillemets, mais c'est pas assez, quoi.
Surtout que même dans les plus obscurs groupuscules d'extrême droite, ils savent que tout le monde sait que Dreyfus est innocent. Donc toute la phase où on le découvre, ça prend 30-40 minutes avant que Dujardin se dise « Mais attends, il y a une autre possibilité ». Mais toi, même si tu connais pas l'affaire, tu sais que Dreyfus est innocent. Et il y a vraiment ce... Tu vois les pièces assemblées, mais c'est pas un assemblage intelligent qui te fait voir comment marche l'armée de l'époque ou comment la société s'est construite en partie autour de l'affaire Dreyfus dans les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. C'est juste, on découvre ce qu'on sait déjà.
Oui, et à la fois, j'ai trouvé qu'on manquait d'un peu d'englobement en termes d'explication. Je trouvais que c'était tellement, justement, à l'intérieur de l'enquête, au cœur de l'enquête, mais sans être palpitant du tout, qu'en fait, on en oubliait, justement, d'expliquer un peu les contextes politiques. Bon, après, j'ai pas suivi forcément tous les dialogues à la lettre, j'étais pas forcément le plus au taquet pendant tout le film, parce que j'étais vraiment pas dedans, j'arrivais pas à être dedans, mais j'ai trouvé qu'on manquait un peu de cet aspect-là, donc qu'on vienne à la fin te mettre des panneaux de « et puis il s'est passé ça au fait », parce qu'en fait j'ai plus le temps pour développer, parce que sinon mon film va durer 3 heures, bah c'est méga chiant aussi, parce que c'est dans ce cas-là, réduis tes parties, mais au moins explique tout. Parle de tout, va jusqu'au bout, et non, dans ces cas-là, on te mâche le boulot, on te met des titres. Et je trouve que limite, quitte à mettre des titres, fais-en à plusieurs moments dans le film pour expliquer où est-ce qu'on en est. Parce que ça manque. Mettre juste des dates quand tu connais pas exactement ce qui s'est passé à la lettre, merci, mais ça ne m'évoque rien de voir 2 mois passer en fait dans cette affaire ou 6 mois passer. Je ne vois pas ce que ça représente à part juste que le mec est encore plus longtemps en tôle.
Et puis dans le même temps, on ressent pas l'espèce d'urgence qu'il y a à sortir ce gars de son île où il est mis au fer tous les soirs, où c'est de la torture mentale à pas mal de niveaux. On voit vite fait un flashback à un moment, à travers une lettre qu'il a écrite à sa femme, « Ah, c'est horrible », où il explique justement le coup des fers. C'est tout. 1h30 plus tard, il revient à Paris et c'est 7 ans plus tard dans l'affaire.
Et puis Dreyfus est présenté comme un chouineur quand même. Hein. Quand Dujardin se remémore sa rencontre avec Dreyfus, c'est un chouineur qui vient dire « Oh là là, monsieur le professeur, vous m'avez mis une mauvaise note, est-ce que ça serait pas parce que je suis juif par hasard ?» Bon, ok. Et la dernière fois qu'on le voit et que les deux se rencontrent, alors... Est-ce que c'est une partie romancée? Il y a de fortes chances. Il va le voir alors que Picard, c'est plusieurs années plus tard, Picard est devenu ministre des armées. Et il fait mon général, monsieur le ministre, c'est pas juste parce que on a été réintégré dans l'armée, donc vous avez été gradé comme si vos années vous les aviez faites, alors que moi, mes années au bagne, on me les a pas rendues, on m'a pas mis à mon poste. C'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment pas juste. Il est en train d'expliquer au mec qu'il a fait sortir du bagne que franchement c'est trop injuste.
Et là, on retrouve le manque d'explication dont parlait Hera. Si tu ne comprends pas l'antisémitisme ambiant de l'époque, la question « Est-ce que vous m'avez mis une sale note parce que je suis juif ?» tu penses à tous les connards que tu as eu en 5e, 4e qui disent « Vous m'avez mis une mauvaise note parce que je suis noir, arabe, homo, je sais pas. » Et tu leur dis « t'es pas venu en cours, connard, qu'est-ce que t'attendais ?» Et si tu sais pas que Dreyfus est allé jusqu'à la Première Guerre mondiale et n'a jamais eu de promotion, ce qui est basiquement impossible, surtout avec tous les morts qu'il y a eu pendant la Première Guerre mondiale, tu sais pas qu'en fait l'armée l'a puni d'avoir été déshonoré. En fait, l'armée l'a puni d'avoir été innocent, quoi.
Mais on le présente juste comme un mec qui vient se plaindre à Dujardin, qui, bon, certes, Dujardin est présenté comme un antisémite, mais pas actif, quoi. C'est juste un mec qui fait des blagues juives, ouais. Fait des blagues antisémites, mais si jamais il y a une injustice, il va aller jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est le héros du film.
Il le dit clairement, j'aime pas les juifs, mais c'est parce que votre travail était mauvais que je vous ai mis une mauvaise note. Vous m'auriez rendu un bon travail, je vous aurais mis une bonne note, quoi.
Et justement, c'est ça. C'est-à-dire que cet antisémitisme-là, il est pas super bien montré, quoi.
Il est montré une fois dans une scène qui fait partie des bonnes scènes du film parce qu'il se passe enfin un truc à l'écran qui suit la publication de J'accuse dans l'Aurore et où ils se mettent à brûler journaux et livres et qu'il y a quelqu'un qui écrit sur une vitre mort aux juifs. Et c'est juste était là genre ah d'accord, peut-être qu'ils ont des problèmes quand même avec les juifs, sauf que avant ça a pas du tout été exposé là où il aurait peut-être effectivement un peu plus fallu, quoi.
Bon, il y a trois personnes qui crient aux grilles des invalides quand il se fait destituer, quoi, mais
oui, mais c'est un traître, c'est pas forcément
Mais c'est ça, c'est qu'on sait pas pourquoi ils gueulent. Voilà. C'est ça, on n'a aucune idée de leur motivation quand ils gueulent.
C'est pas parce que vu que le film commence à la dégradation et à l'humiliation publique de Dreyfus et qui continue avec la promotion de Picard. Putain, à chaque fois je pense à Star Trek, c'est horrible. Tu sais pas que sa simple accusation, ça a déjà levé des foules de gens qui criaient mort aux juifs. Et franchement, si on prend des extraits choisis de cet épisode, tu peux me faire mettre en prison.
Mais c'est le programme.
C'était le but.
D'ailleurs, oui, justement, cette scène-là, d'ailleurs, c'est le seul passage où j'ai eu un frisson, où je me suis réveillé, où il s'est passé un truc dans le film. C'est-à-dire, la phase du j'accuse, c'est le moment réussi. Bon, le problème, c'est que c'est le moment dans la bande-annonce. Donc, si vous avez vu la bande-annonce, c'est pas la peine de vous taper les deux heures de film.
La bande-annonce, c'est une page Wikipédia, voilà, vous avez vu le film.
Ouais, c'est triste, mais c'est ça, quoi. Du coup, ça rend un peu caduque la dernière question. Lion d'argent à Venise, fait grand prix du jury à la Mostra, ça valait le coup ou pas?
Pour la polémique.
Ouais, non, à part.
En plus, alors clairement, non, c'est même pas le meilleur film que j'ai vu cette semaine. C'est même pas la meilleure bio que j'ai vu cette semaine. Le Mans 66, c'était mieux. Et j'en ai rien à foutre des voitures.
C'est dire.
Moi, j'ai jamais d'avis sur les prix, de toute façon. Je trouve pas ça forcément intéressant.
Petite déception finalement pour cette grosse affiche qui s'annonçait quand même plus sensationnelle que ça, ou même. Là, c'est très scolaire, c'est très plan-plan, quoi.
Mais justement, c'était, tu dis, cette grande affiche qui s'annonçait. Ouais, on te montre un pseudo-truc grandiloquent, etc. Mais en fait, je trouvais que moi, ça se sentait dès la bande-annonce où t'es là, oh là là, on me grandiloque trop déjà. On est déjà trop dans le grandiloquent, ça sent le truc pas bon.
J'ai même pas parlé de saigner.
Ah oui, oui, quand je parlais du cast, évidemment, je comptais pas le... Quelle bonne nouvelle ça doit être pour vous, Georges. Waouh! Elle pensait vraiment à ce qu'elle allait bouffer le soir à ce moment-là.
Bon, J'accuse ne restera pas aux oubliettes, mais prendra la poussière sur l'étagère, sûrement. De l'animation française, messieurs, avec J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. C'est son premier long métrage, un film d'1h21, d'après le roman Happy Hand, La main joyeuse, roman de Guillaume Laurent. Voilà. Un film primé à Cannes, qui a eu le grand prix de la semaine de la critique à Cannes, et qui a eu le cristal du meilleur film à Annecy, ainsi que le prix du public. Je suis toujours avec Thierry.
Coucou.
Et je suis avec Karl également.
Coucou.
Les coucous les plus joyeux de la Terre. On va suivre les aventures d'une main qui va s'échapper d'un frigo pour essayer de retrouver son corps. Et à côté de ça, l'histoire d'un jeune homme qui va tomber amoureux d'une voix à l'interphone et qui va essayer de la retrouver.
voilà. Avec la stalker.
Oui, ouais, voilà, il va la stalker, hein. Voilà, j'ai pas osé le dire tout de suite parce qu'on va dire à Thomas, t'as un avis biaisé sur le truc, mais oui, il la stalke carrément.
Dans le cheminement, c'est pas faux non plus.
C'est complètement ça.
Ouais. Dans le cheminement, dans l'application, dans la pensée, non, c'est pas faux.
Bah, la seule chose qui sauve au moins ça, c'est qu'il a un peu plus de contenu, c'est qu'il y a eu une discussion, qu'il y a eu une volonté. C'est pas juste le mec qui a observé la nana sur son palier et qui s'est dit tiens, je vais la suivre tout le temps. Mais non, mais il y a eu la discussion qui fait que.
Il l'a juste pas observé, mais bon, il a décidé de retrouver où elle habite, retrouver où elle travaille, la suivre, et juste entrer en apprenti auprès de son oncle pour pouvoir la recroiser. Je suis désolé, qui est rassuré? Qui trouve ça romantique?
Non, ça l'est absolument pas, hein, dans le fond.
C'est l'application exacte de ce pourquoi certaines femmes flippent de commander. Parce que le mec, il est livreur, c'est comme ça qu'il a croisé un interphone. Il y a certaines femmes qui vivent seules qui flippent de commander justement à cause de ça. Donc, non, c'est du stalk.
C'est complètement du stalk. Mais à côté de ça, donc moi, les passages que j'ai préférés quand même, parce que j'ai pas rejeté le film en bloc quand même. Oh merde, j'ai spoilé mon avis, bon tant pis. C'est que quand même on a les aventures de la mère, et là c'est un film d'aventure, un film d'horreur même par moment, parce que vu par quoi elle passe, entre les animaux, les pigeons, les rats, les trucs qui taillent, qui coupent, la noyade et tout, les passages avec la mère, j'étais vraiment emporté, j'étais pris dedans. Quoi.
Les passages avec la main, bah moi aussi c'est mes préférés, c'est des passages très sensoriels où... Il n'y a pas de dialogue non plus. Parce que, bon, s'il y avait des dialogues, la main, elle ferait juste putain. Mais ouais, c'est les moments où juste le film se permet de montrer un univers. Puis on voit une main qui a quand même conscience de son environnement, qui se déplace toute seule. Par contre, ouais, les passages où il y a le mec qui appartenait à la main avant, c'est plus du... Enfin, je m'en contrefous du scénario, mais du coup, comme c'est la partie qui développe le scénario... Et qu'il est un peu teubé, c'est plus compliqué.
C'est un gars perdu à la recherche d'un idéal et il se raccroche à ce qu'il trouve. Et c'est pour ça, bon d'ailleurs, qu'il fait des mauvais choix en stalkant une fille, mais c'est un gars qui est perdu, qui a perdu ses parents, qui se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, qui essaye de s'accrocher au code qu'on lui donne, mais qui est totalement perdu et qui, bah, justement, en découvrant le sentiment amoureux, va tenter de s'accrocher à cet idéal et de le retrouver lui-même. Et je vois pas en quoi il est teubé du coup.
Le scénario est un petit peu teubé. Entre les clichés et les trucs faciles et tout, c'est pas nul à chier, mais bon, c'est pas non plus...
Bah je sais pas, c'est une quête. Après, c'est une quête que tu mets en exergue. Enfin, moi, les passages que j'ai préférés sont également les passages avec la main. Hein. Donc c'est une quête voilà, que tu mets également en parallèle avec la quête de sa main, qui du coup se font constamment écho. Après, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Au contraire, moi, le côté sensoriel, je l'ai ressenti dans les deux histoires plus... au niveau de la main, puisque dans l'autre t'as du concret, du coup le concret va retirer l'aspect sensoriel total, mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez touchant. Après bon,
les parties humaines entre guillemets, on va le distinguer, les parties mains, les parties humaines, je m'en mis complètement dehors, et notamment, alors outre déjà le scénario que j'ai trouvé un peu gnangnan et un peu creepy aussi sur le scénar, mais et aussi au niveau de l'animation aussi. On va en parler, c'est très joli, autant quand on est avec la main c'est hyper fluide, quand on est avec les humains les gros plans sont hyper fluides, dès qu'on s'éloigne un peu, on perd, l'animation se saccade quand même énormément. Alors je sais pas quelle est la part de technique, quelle est la part de voulu, mais moi ça m'a complètement sorti du film. Voilà.
Ouais, la partie saccadée ça me dérange pas parce que je trouvais justement que ça jouait sur la déconnexion en fait. Pour moi c'est plutôt sur le côté abstrait de la quête du personnage qui justement ne sait pas où il va, donc du coup le monde lui apparaît comme un peu flou, là où la main sait pertinemment ce qu'elle doit faire et ce à quoi elle doit survivre, donc du coup c'est beaucoup plus fluide. C'est une interprétation, après voilà, moi je pense que c'est voulu, mais évidemment
moi je pense que c'est plus de l'interprétation, parce que les passages humains ils sont fluides en gros plan, et dès qu'on s'éloigne un peu et dès qu'il y a beaucoup de choses à animer, c'est plus compliqué. Moi je pense que c'est plus de la technique,
j'en sais rien, mais ouais, il y a eu deux ou trois moments où ça m'a un peu attaqué les yeux.
Moi, ça a été au point de me sortir du film, donc bon, voilà.
Ah bah après, ça sort quand même. Enfin, si tu vois, j'apprécie le postulat, la manière dont c'est fait, et si l'interprétation que j'en ai se rapproche, ça me convient bien. Après, en termes d'expérience sur le moment, oui, en effet, les passages où justement les personnages se tournent autour et que ça saccade constamment, c'est pas toujours... des fois, ça me passait très bien, des fois, moins, bon, c'est...
Du coup, est-ce que les passages de la main sont assez bien pour compenser les passages un peu en dessous humains?
Pour moi oui, mais vu que j'aime bien les passages humains aussi, ça me dérange pas.
Non, franchement, ça vaut quand même le coup de le regarder. Après bon, moi j'aimerais bien le revoir avec une version où on enlève les passages humains en fait.
Bon bref, donc si vous le piratez sur internet et que ça rame, c'est normal. C'est pas votre ordinateur, c'est pas votre... c'est pas le streaming, voilà.
Ça se trouve, on est en train de débattre sur une erreur de projection. Hein.
Ouais, c'est peut-être que c'est la copie qu'on avait qui déconnait. C'est possible aussi.
Ce serait très marrant.
Ça serait très drôle.
Parce que ça s'enflamme dans les coulisses de claque, vous n'imaginez pas.
Non, on va faire un combat de bœufs, là, on est prêt. Hein.
Bah non, comme dans le film, on récupère les rats. En plus, on est au hall, on est les plus fat de Paris.
Coupez les mains, vous allez voir.
Cette menace, je vais me couper les mains et après je vais vous défoncer.
Arrêtez, écraser les yeux, qu'est-ce qu'il y a.
Ces mecs-là sont dangereux. Vite, sauvez-moi, envoyez le prochain film.
I'm asking not for an erasure of our enormous debt, but for its restructuring.
I'm sure we're going to do good work.
La réussite de votre programme sera aussi notre réussite.
They won't let you do that.
Europe set up a rescue plan to save Greece.
The rescue plan was to save the German and French banks. Oh. Their colossal debt was transferred onto the Greek people. Our government wants dialogue.
Out of the question to renegotiate the MOU.
Un peu de sérieux, un peu de politique, un peu d'économie, mais de l'économie vénère. Une critique, une charge brutale contre le système monétaire européen, contre l'Eurogroupe même plus exactement. Adult in the Room de Costa Gavras, un film de 2h04 adapté du livre Conversation entre adultes de Yanis Yaroufakis, ancien ministre des Finances grec, ministre de Alexis Tsipras qui avait remporté les élections pendant la crise grecque, gouvernement de gauche. Et qui justement avait pour programme de défendre les intérêts grecs et de, à défaut d'éradiquer la dette grecque, au moins la réduire ou la renégocier. Ça s'est pas exactement passé comme ça. Ça a été un peu plus dur que prévu. Je suis avec Thierry, comme d'habitude.
Salut.
Et je suis avec celui qui porte le même prénom que Marx, Karl, du coup.
Oui, mes parents étaient au courant, oui.
Un film qui enchaîne, du point de vue grec, les négociations dans l'Eurogroupe. Une charge brutale contre le système financier, dis donc.
Ouais, ça y est, l'intertitre Libération a été fait. Donc le film commence sur l'élection du parti de gauche en Grèce, qui avait pas mal fait la une à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la seconde où il y a 5-6 responsables qui ont été élus s'isolent dans une pièce, il y en a un qui fait « Bon, on fait quoi maintenant ?» Parce que la situation de la Grèce à ce moment-là, c'est dans une impasse, ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce que vont leur laisser l'Union Européenne. En plus, un parti radical de gauche qui n'est pas forcément très bien vu par soit les sociaux-démocrates, soit les partis de droite au pouvoir à travers l'Europe. Et ça va être la galère. Alors tu disais du point de vue grec, c'est surtout du ministre des Finances qui va essayer d'être fidèle à ses valeurs et trahir ses promesses dans les faits mais pas dans l'esprit, on va dire, ses promesses électorales. En sachant très bien qu'il ne pouvait pas effacer la dette parce que c'est se condamner auprès de tous les créanciers à l'avenir. Et en même temps, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et tout le film, ça va être... ce qu'a toujours su montrer Costa Gavras, c'est cette impasse de l'individu face au système fermé, souvent monétaire, qui va bloquer chaque avancée au mépris du bon sens le plus absolu.
Oui, même le ministre allemand va reconnaître que c'est infâme ce qu'on leur fait. Quoi.
Ah oui, je te regarde dans les yeux, je dis... Ouais, je te donne deux choix impossibles, mais dans les deux, t'es dans la merde. C'est juste qu'il y en a un qui m'arrange plus que l'autre.
Moi, ça me fait pas mal penser, tu sais, quand tu as plein de gens qui se désolidarisent des votes ou qui ne s'intéressent pas à la politique, chose que je peux comprendre parce que c'est un terrain complexe, il y a beaucoup de choses à apprendre, à retenir, et oui, analyser tout ça, c'est un sacré bordel. Et qui pensent que ça n'a pas d'impact. Là, tu veux te dire, de toute façon, moi, genre, je suis prolo, j'ai une petite vie, ça m'impacte pas. Et en fait... Ça a de l'impact quand tu regardes avec de la distance, quand tu constates tous les 5 ans que tel truc a augmenté, que tel truc a baissé, tu te rends compte de ce que ça fait. Ce film-là t'explique en fait aussi comment ça se passe, quels sont le genre de décisions à prendre et comment tout ce système fait qu'on peut en arriver à ce genre de choses. C'est assez impressionnant, c'est assez incompréhensible également, il faut s'accrocher, il faut quand même comprendre tous les tenants et aboutissants. Mais comme vous le dites, voilà, c'est un film qui parle d'une impasse, c'est un film qui parle de... du seul gouvernement de gauche dans une Europe extrêmement à droite, quoi qu'on en dise, et qui se retrouve, à payer aussi pour tous les autres. Enfin, je veux dire, le principe même de l'Europe, de toute façon, c'est ça, c'est d'avoir voulu mettre des pays sur tout un pied d'égalité, sachant qu'il y en avait qui n'avaient pas la même force monétaire que d'autres, et c'est eux qui se retrouvent à payer les pots cassés, quoi. Et on le voit maintenant aussi, dans l'avancée que ça a pris, il n'y a pas que la Grèce qui est dans cette situation-là, quoi.
Alors, seul gouvernement de gauche, on va tempérer. C'est pas tant une question d'être de gauche ou de pas, c'est surtout qu'on est dans un système européen où il y a plusieurs pays qui prennent des décisions ensemble et que la force de la machine est tellement grosse que quelle que soit ta couleur politique, t'es un peu...
Dans le film, c'est clairement dit, si on se plie aux règles de l'Europe, c'est-à-dire aux règles de la majorité des pays, on ne peut pas suivre une politique de gauche. Les deux choix qui sont proposés, en gros, c'est soit vous acceptez qu'on vous prête de l'argent pour rembourser la dette que vous nous devez déjà et vous enfermez dans un cercle de dette, soit vous avez un Grexit et vous n'êtes plus dans l'Europe. Donc là, on peut pas, franchement, enfin, c'est soit t'es de gauche, soit t'es européen. Et eux, ils veulent être les deux. Donc c'est le choix qu'on leur met, mais là, on parle de l'explication de la crise grecque, tout ça. C'est pas juste un film documentaire explicatif. Costa Gavras, c'est un mec qui sait faire des films vénères. Ça faisait longtemps, je crois que ça faisait depuis The Big Short, que j'avais pas vu un film avec des gens qui parlent juste dans des réunions, mais qui est aussi violent envers un système qui écrase complètement tout, même les gens qui en font partie. Bon, parce qu'on dit que le gars c'est un outsider, ça reste le ministre des finances de la Grèce qui est pas non plus Burkina Faso, même dans ses pires moments.
Mais quand même, on parle d'une situation de crise humanitaire quand même. C'est quand même une situation où il y a un exemple parmi tant d'autres entre les fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 6 mois ou l'obligation de virer 8000 médecins par exemple. Oui, on peut parler de crise humanitaire quand tu n'as plus de système de santé, enfin, quand il est abattu à ce point. On parle ciné un peu ?
Bah, comme souvent chez Costa Gavras et dans les films de pouvoir qui se passent dans des bureaux ou dans des réunions, ça va être énormément de jeux de mise en scène du pouvoir par le cadre qui est majoritaire dans le cadre, qui est filmé en plongée contre plongée. Il s'est filmé ça, quoi. C'est superbement maîtrisé. Il se permet même des effets de style par moment qui commence à se permettre de plus en plus dans son cinéma depuis le début des années 2000, que j'ai bien aimé. Il y a notamment un plan où il est à une réunion de la Commission européenne où on lui sort des chiffres. En fait, les chiffres finissent par se matérialiser dans la pièce et à tourner encore jusqu'à ne plus rien vouloir dire. Et la réunion est finie, c'est en gros t'es baisé.
Oui, non mais c'est vrai qu'il a cette façon au final, malgré un texte qui est très lourd, et très, c'est difficile à assimiler et à digérer, d'essayer de le faire de manière ludique. Du coup, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de surexplications, c'est très 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 expliqué. D'un autre côté, j'imagine que toutes ces réunions doivent ressembler à ça, à du verbeux où on te répète sensiblement la même chose, ou de toute façon on te répète que c'est possible, pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, comme tu le disais, fait 2h04. Alors, tu sens que ça dure longtemps, mais c'est pas un ressenti long pour autant. Tu sens que l'essentiel est quand même dit et que de toute façon, vu que ça se passe comme ça, il fallait que ça ait ce genre de durée et que ça ait ce genre de lourdeur où tu te dises à un moment, putain, mais ils sortiront jamais de ça. Ils vont encore faire une tournée, aller voir d'autres personnes qui vont leur dire les mêmes choses. Ils vont essayer de s'en sortir, ils vont encore se faire avoir. Et c'est ce côté cyclique qui est super intéressant, et la manière dont il met en abîme fait que tu t'en lasses quand même pas, parce qu'il arrive toujours à trouver des manières, par sa caméra, par la manière dont il va agencer les personnes, tu comprends vite quelles sont les personnes importantes dans les décisionnaires et quand ils arrivent. Mais toute la place leur est faite, autant dans le champ que dans ton esprit. Et c'est assez fort, en fait.
Oui, quand ils vont commencer une réunion qui manque les deux tiers des participants et que l'Allemand arrive avec toute sa cour derrière, t'as compris, le rapport de force est posé, quoi. Tout est dit. Il y a aussi ce côté inéluctable, c'est-à-dire que c'est une tragédie d'entrée. La tragédie grecque, d'ailleurs, on connaît la fin dès le départ. Ici, on a l'élection et la scène suivante, c'est le ministre qui rentre chez lui après avoir posé sa démission. On connaît la fin d'entrée. On sait que ça va être un combat contre des moulins à vent, quoi, qu'il ne va pas y arriver de toute façon et qu'il va se battre contre le mur. Et on a aussi le jeu sur le double discours, pour reprendre sur le côté politique, c'est-à-dire ce qu'on te dit en public et ce qu'on se dit en privé et ce qu'on se dit en public, c'est pas la même chose.
Mais ça, c'est même des trucs qu'on sait. Enfin, c'est tout le monde est au courant que tu dis pas à la réunion ce que tu dis devant la presse.
Mais là, c'était ouvertement le contraire.
Mais là, on te montre que oui, bah t'as ce que tu penses en privé, et puis t'as l'intérêt public de toi, de ton parti, de ton pays, de ton idéologie, de la banque de ton pays qui te dit que si tu lâches quoi que ce soit, c'est mort pour toi.
Et on te propose de vendre tes actifs, mais avec ton propre argent.
Ah oui, cette scène. Vous nous proposez d'acheter nos aéroports avec notre argent à une société allemande.
De vendre à une... Oui. Vous proposez qu'une société allemande achète nos aéroports en faisant un prêt chez nous qu'on garantira nous-mêmes. Donc en gros, c'est notre pognon, quoi.
C'est un film de résistant, en fait, pour moi. Ça me fait penser aussi, dans une autre mesure, parce qu'ils n'ont pas du tout le même traitement, à un Ken Loach. Bon, Ken Loach aura un traitement beaucoup plus lourd, et lui, il te fout plutôt en PLS à la fin du truc, là où Costa Gavras te laisse quand même des notes explicatives qui te disent que ça te concerne ou pas, bats-toi, et soit pas trop abattu. Mais justement, c'est un cinéma de résistants, quoi. Et des mecs qui ont autant martelé de la politique dans leur cinéma au fur et à mesure des années et qui sont pas devenus de vieux conroyacs ou des mecs qui te font la morale, mais qui ont encore un discours et qui ont encore des choses à dire et qui le font bien, ça risque de manquer dans quelques années. Donc heureusement qu'il y a encore des films comme ça, quoi.
Et juste pour finir, c'est pas la première fois que Costas Gavras parle de la situation politique en Grèce, il est grec. Je conseille énormément, et il est assez dur à trouver, le film Z, comme la lettre Z, qu'il a fait sur le début de la dictature des colonels, qui est mon film préféré de Costas Gavras. Mais il faut aussi voir Missing, il faut voir Le Coup Près, il faut voir ouais, tout ce qu'il a fait. Ça.
Adult in the Room de Costas Gavras, un film sans concession, sur des mecs qui n'en ont pas fait.
Qui aurait voulu en faire.
Our aim was to create a plant with a scent that makes its owner happy.
We are entering a new era here. The first mood-lifting, antidepressant, happy plant.
We've received orders from all over the world.
I just wanted to say that I feel really proud to be working with you.
Look what I have for you. What do you say we call him Little Joe? You have to take good care of it. Keep it warm. Talk to it. It needs attention.
What's so special about it?
It makes you happy.
Little Joe de Jessica Hausner, premier film en anglais de la réalisatrice autrichienne, avec Emily Bisham dans le rôle d'Alice. Emily Bisham qui a été primée à Cannes par un prix d'interprétation. Et Ben Whishaw. On est dans un laboratoire de botanique et Alice a créé une plante qui rend heureux. Alors il y a un petit effet secondaire, c'est qu'elle rendrait légèrement accro. Les personnes qui respiraient son pollen seraient obsédées par la plante et n'auraient plus d'autre obsession que justement la protéger et la maintenir un peu comme leur propre enfant. Et ça serait leur priorité numéro 1. Après l'invasion des profanateurs, on a l'invasion des cultivateurs. Un film d'1h45. Je suis avec Thierry, toujours au poste, avec Hera.
Hello.
Et notre Little Joe, notre Little Carl.
Little, mais quoi?
Je dis ça, il fait 10 cm de plus que tout le reste de l'équipe. Hein. Je dis...
Que moi, c'est facilement 30, 40 même. On peut y aller.
Un film à l'esthétique très léchée, très propre, aux couleurs pastel, avec une musique, une BO japonaise. Elle a pris, c'est pas une BO originale, c'est une BO d'un compositeur japonais qui composait des musiques de films dans les années 40.
Ouais, c'est pour ça que les deux musiques du film sont super familières.
Un rythme, on va dire, qui prend son temps, qui est posé. Hein. On est au rythme des plantes un peu, hein, n'est-ce pas?
J'ai trouvé que c'était presque une réale trop travaillée par rapport à ce qu'elle a à dire, parce que sur le sujet des plantes qui contrôlent... des humains pour pouvoir se reproduire, il y aurait plein de sujets à traiter, et le seul qui est vite fait traiter, c'est celui de Body Snatchers, c'est celui de « les gens autour de moi sont un petit peu bizarres, je vais commencer à me méfier, puis un tout petit peu plus, puis un tout petit peu plus, puis un tout petit peu plus, puis un tout petit peu plus », et là tu te rends compte que ça fait que 30 minutes que ça a commencé, qu'il reste encore 1h10 dans un tout petit peu plus.
Je suis assez d'accord. Au niveau de l'esthétique, c'est vrai que ça fait penser à beaucoup de choses. Alors autant des choses très anciennes, Body Snatchers clairement, Village des damnés beaucoup. Après, moi j'ai pensé aussi à des trucs assez récents finalement, j'ai pensé au premier film de Brandon Cronenberg, Antiviral, parce que cette espèce de côté laboratoire tout le temps très propre, très sain, voilà, ça m'a fait penser à ça. Et dans la façon où ça monte les plantes comme une entité clairement particulière qui a sa volonté propre, ça m'a fait penser à Une Fabrique, dont on va parler dans pas longtemps. Ça m'a énormément charmé pendant une bonne partie du film, au contraire moi je me suis vachement pris dans cette ambiance, j'ai trouvé ça super beau à regarder, c'était super intéressant, puis je me disais putain c'est en train de partir vers un truc qui me plaît. Voilà, ça commence par le chien qui commence à avoir ce problème de contrôle ou commence à changer d'attitude, et à partir de là tu comprends ce qui se passe. Après on voit donc le personnage d'Emily Bisham qui va regarder des interviews de personnes qui ont fait des tests avec ces plantes, où les gens disent non mais c'est quand même bizarre parce qu'ils sont un peu changés, ils sont un peu différents, puis elle sent que son gamin change. Mais le problème c'est que du coup, à partir du moment où tout démarre, c'est une heure où le film passe son temps à t'expliquer que ça démarre. Et vraiment, c'est vraiment je sens qu'ils sont en train de changer, je sens qu'ils sont un peu bizarres. Ça n'avance pas en fait. À partir de là, c'est vraiment on reste dans cette espèce d'état alors qu'on nous l'a déjà très très bien posé. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est très bien foutu, c'est très bien posé, c'est bien décrit là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est censé démarrer, bah, on continue à t'expliquer que ça va démarrer. Du coup, ouais, ça m'a perdu au fur et à mesure, en fait, alors que j'étais parti avec plein de bonnes intentions pour ce film, quoi.
Je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Ça aurait pu partir dans beaucoup de choses. On est sur un petit trésor de sujets, un petit trésor scénaristique qui est plein de branches qui auraient pu être prises. Et en fait, la réal a choisi vraiment de partir sur un film purement d'ambiance. C'est vraiment se mettre dans cet état tendu tout le long et garder cette tension-là pendant tout le film et faire partager une espèce de confusion, de je ne sais plus de quel côté de on se situe. Est-ce que la plante change vraiment les gens? Est-ce qu'il ne se passe strictement rien? Est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que c'est réel? Donc on est dans cet environnement-là complètement paumé. Moi, j'ai beaucoup aimé ça quand même. Disons que si c'était parti dans quelque chose de beaucoup plus rythmé, avec des montées en tension encore plus fortes, avec des résolutions, ça aurait pu être très bien, comme ça aurait pu être totalement foireux. Là, elle a choisi cet axe-là, et j'ai trouvé ça super. Mais je pense qu'en fait, c'est une série. Ça me donne vraiment la sensation que c'est une série. C'est-à-dire que ça prend ce temps de développement, comme peut le faire Utopia, comme peut le faire Black Mirror. Et ça prend un temps de développement tellement grand, avec tellement de potentialité, de choses à dire, que ça mérite d'être une série. Qu'elle puisse s'éclater à le faire sur une ou deux saisons, comme ça, à développer le truc en prenant bien son temps, plutôt que de développer ça que, entre guillemets, sur 1h40-45, où c'est chouette, mais on reste un peu sur notre faim.
Waouh, déjà que c'était long sur 1h45, alors sur toute une série.
Personnellement, je trouve ça ni lent ni long. Comparé à plein d'autres séries où t'es là en train de voir, il y a des séries qui voient cette lenteur s'installer. Et là où j'aurais aimé un développement au début plus long. Je sais que ça peut être surprenant, mais le début, donc un des ressorts scénaristiques, c'est que on a beaucoup la relation entre la mère, donc l'actrice principale, et son fils. Et au bout d'un moment, on est censé voir des changements chez les personnes. Comment tu veux voir un changement sur un personnage que tu n'as pas connu? Tu ne peux pas voir, toi, si les gens changent vraiment, à part qu'ils sont un peu plus souriants, un peu plus contents. Mais le contraste n'est pas assez grand pour voir l'efficacité de cette plante et l'impact qu'elle a sur les gens.
En fait, la seule solution éventuellement qu'elle aurait pu trouver, si elle voulait rester sur un format 1h45, mais ça aurait peut-être biaisé son sujet, ça aurait été de faire des changements beaucoup plus marquants pour qu'on se rende compte que la personne a changé. Mais à partir de là, tu peux tomber dans la parodie. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé dans quoi est-ce que ça va partir. Et si ça part dans un truc à la Bonnie Stalcher, où ça peut partir dans du simili-horreur, est-ce que ça peut pas devenir ridicule avec une esthétique qui est aussi posée, aussi propre, aussi léchée, ou tout à coup ça peut partir dans du gros kitsch? Du coup, ça a évité ça, mais à la fois ça a pas proposé quelque chose d'intéressant derrière, quoi. C'est dommage.
En même temps, il faut que ça soit subtil, sinon on n'a plus le côté parano.
La volonté de subtilité fait qu'en fait le deuxième acte est plat. Toute la partie où devraient se passer les péripéties, les péripéties c'est juste... peut-être que lui est différent. Alors que toi, spectateur, avec la mise en scène que t'as eue autour des plantes, tu sais qu'elles agissent. Et on va être honnête, dès qu'un personnage est infecté, d'un seul coup, on voit qu'ils se comportent bizarrement, en tout cas. On ne sait pas s'ils ont changé, mais en tout cas, ils sont chelous. Donc même quand il est censé y avoir une sorte de doute pendant une ou deux minutes, je sais pas pour vous, moi je l'avais grillé à la première phrase.
Et en expliquant exactement ce qu'on voit qui se passe, ce n'était pas nécessaire. Donc ça appuie un petit peu trop dessus sur... le scénario n'est pas compliqué, donc c'était pas la peine de prendre un peu les spectateurs un peu pour des idiots, dans le sens où c'est un peu trop appuyé parfois.
Il y a aussi un plan qui revient souvent, qui est repris plusieurs fois, c'est quand il y a un zoom avant sur une discussion, deux personnes qui sont à l'opposé du plan, et le zoom, 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 jusqu'à faire sortir les personnages du plan. Bon, ça marque une distance entre les deux personnages. C'est intéressant. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça revient à filmer les rideaux.
Au-delà de la distance entre les personnages, ça m'a fait aussi penser à l'écoute extérieure. Tu as le côté, en fait, on n'est pas du point de vue de ces deux personnages-là qui sont en train de se parler, mais de la plante qui est en train de les écouter. C'est pour ça qu'on les sort du cadre, pour te dire on entend quand même les voix quand ils ne sont pas à l'écran, donc quelqu'un d'autre les écoute. Enfin, je m'ai pris ça comme ça.
En plus, en général, au bout du plan, il y a soit des rideaux rouges, soit une tapisserie rouge, qui est la couleur des fleurs. Donc, ça complète complètement.
Heureusement que la caméra bouge, parce que les personnages sont figés pendant tout le film, quasiment.
Tu m'as fait la remarque pendant le film, je n'ai pas trouvé spécialement, non?
Alors après, au bout, il leur arrive de faire un petit mouvement quand ils sont au self. Bon, d'accord.
Ouais, ils sont robotiques. en fait. Mais c'est totalement, pour moi, voulu et souligné par la mise en scène. Et justement, je trouvais ça absolument génial. Parce qu'au lieu de demander à tes personnages d'être ultra-robotiques dans leur attitude pour souligner le côté « Oh, regardez, nous travaillons dans un laboratoire et nous faisons des mutations génétiques », on te le fait dans la mise en scène. J'ai trouvé ça génialissime. On te fait des plans fixes qui sont des peintures ou des photos qui sont tous absolument sublimement agencés. Alors oui, il y a travelling de masse, ça je suis d'accord, mais ça marche aussi parce que c'est comment donner du mouvement sans faire de la caméra embarquée et sans embarquer ta caméra, parce que ce n'est pas le but de cette mise en scène de faire ça. Bah ouais, travelling et panneau. Mais ouais, je trouvais que ça marchait carrément. Par contre, la mise en scène, j'ai trouvé impeccable de bout en bout.
Donc Little Joe, film entre deux, hein, sous serre un peu.
Je dirais pas bon, je dirais intéressant.
Je conseillerais quand même, parce que ne serait-ce que pour cette esthétique qui est quand même rare d'être vue au cinéma ces derniers temps, ça vaut le coup d'aller passer. Si vous aimez les films un peu de tension, si vous aimez quand même les films lents qui prennent leur temps, allez-y.
Alors moi, j'ai pas du tout ressenti la tension. Il y a un jumpscare avec le chien qui m'a beaucoup fait rire. Mais non, par contre, la mise en scène est intéressante. Enfin, ça vaut le coup de regarder. Par contre, c'est pas pour le scénar, les gars.
Tout ça, c'est un objet esthétique hyper intéressant et c'est dommage que. Enfin, ça apporte de la frustration quand on voit toutes les pistes que ça pouvait aborder. Par contre, oui, en objet esthétique, en effet. Moi, je voulais un dernier acte avec les hommes plantes, mais non, tu vois.
Je tiens quand même à signaler que c'est la première fois qu'on va voir un film de science-fiction et que c'est Hera qui le préfère.
Our phones have become essential. Apps keep track of our schedules, our fitness, our love lives. But what if an app could tell you how long?
I got 63 years.
57 years.
Before you die, would you want to know?
What? 2 days?
Countdown. Une nouvelle application fait fureur chez les jeunes. Elle annonce un compte à rebours jusqu'à l'heure de votre mort. Et elle fait vraiment fureur, puisque si jamais vous ne mourrez pas à l'heure dite, un démon se chargera de vous exécuter. C'est cool, non? Alors ça, bon, le pitch comme ça, ça a l'air sympa. Bon, par contre, le coup du compte à rebours qui vous annonce la mort, on l'a vu. Le coup de la mort inéluctable, on l'a vu. Là, on mixe un peu. Et y a-t-il un peu d'originalité là-dedans, Thierry? Parce que bon, on a testé l'application, les autres l'ont testé aussi, ils sont tous morts, on est les deux derniers survivants.
Désolé pour ceux qui préféraient les autres membres du podcast. Hein. Tu oses dire que c'est sympa? En fait, moi, pour le coup, l'application qui donne ton compte à rebours et la mort mystérieuse, ça aurait été sympa. S'ils n'avaient pas mis ces putains de démons, quoi. Alors non, moi désolé, le démon qui vient des enfers et qui te produit... Ah oui, je lis des incantations en latin, ouais, on s'en branle, on dévoile tout. Hein. Ne matez pas ce film, si vous le matez, vous vous en branlerez quand vous êtes spoilé, donc vous ne nous en voudrez pas. C'est quoi ce truc, quoi? Ouais, on va aller voir le super... Enfin, moi je suis un prêtre, mais je crois pas au démon. Alors je vous envoie voir le super prêtre qui y croit et qui lui va lire les incantations en latin, quoi. Et qui va dire, ah oui, c'était le démon de l'enfer et qui va te ressortir des parchemins avec un démon qui montrait à des gars dans l'ancien temps les comptes à rebours de leur mort. Ah non, mais ah, qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est le prêtre geek. C'est, au lieu d'être fan de comics, il est fan d'Apocalypse et de textes sur les démons. C'est d'ailleurs, non, c'est un fan de comics, puisqu'il est fan, il décrit la Bible comme une nouvelle graphique. Enfin, c'est lamentable. À la limite, on serait tombé sur une sorte de destination finale, j'aurais kiffé.
Moi, c'était ce à quoi je m'attendais, parce que même la première mort qu'on voit, c'est la nana, en fait, devait monter avec son mec en voiture, elle voit le compte à rebours qu'approche, elle fait, ouais, ça sent pas bon. Elle a peur sans avoir peur, parce qu'à la fois, ils sont tous là en mode, ils ont pas la preuve que ça existe, mais tu flippes un petit peu. La nana, donc, monte pas en voiture, finalement, 7 minutes après, la bagnole de son mec se crache, d'ailleurs, donc elle aurait dû crever comme ça, donc elle rentre chez elle, mais hop, elle se fait enlever au plafond, et là, tu vois pas d'entité qui la chope, tu la vois juste s'élever au plafond. Donc je me dis, ouais, c'est con que ça se soit fait comme ça, ils auraient peut-être dû faire un truc à la destination finale. En même temps, ça aurait fait une grosse redite et ça se serait ressemblé comme deux gouttes d'eau. Mais allez, pourquoi pas, c'est de la mort mystérieuse. Mais alors putain, à partir du moment où ils commencent à avoir des flashbacks,
à partir du moment où elle monte au plafond.
Non, c'est vrai que c'est complètement con, mais tu te dis, ok, ça reste de la mort mystérieuse, on sait pas ce qui fait ça. Mais alors à partir du moment, à la limite, ça aurait été marrant, tu vois, que des gens, parce qu'au début, on la voit même se faire suivre par quelqu'un, que ce soit un truc un peu comme The Box de Richard Kelly. Le côté. La dernière personne qui a téléchargé l'application et qui est censée mourir, on lui dit, si tu butes la prochaine, toi on te fait rien. Et au fur et à mesure, ça crée un cercle. Ça aurait été sympa de partir sur des bonnes pistes. Mais alors ouais, partir sur les démons ont piraté une application. C'est complètement con, putain.
C'est totalement débile. Mais si avec ça qui était débile dans le film, c'est truffé de clichés, évidemment. Et puis, on se fait royalement chier pendant tout le film, puisque il y a un compte à rebours, on sait quand elles vont mourir, et puis les personnages qu'on va suivre vont tous mourir à peu près dans la même heure. Donc ben, on va passer tout le creux du film, tout le milieu du film à ben, attendre. Donc ils voient des démons, ils ont un peu peur, mais on sait qu'il ne va rien se passer parce que le compte à rebours n'est pas là. Et comme tous les comptes à rebours finissent en même temps, on s'en fout en fait, on attend.
Pourquoi cela? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi est-ce que tous les gens qui sélectionnent pas cette application, vu que personne ne le fait, à part ceux qui ont un peu peur du frisson, se retrouvent pas dans le piège? Quel est le caractère aléatoire, quoi?
Non, mais en fait, ils te donnent vraiment l'heure prévue. Mais si tu t'en sers pour modifier ton destin, le démon te court après. C'est ça, le truc. Par contre, c'est débile, parce qu'ils font un truc, ils ont trouvé que le démon aime pas et que le démon est bloqué. Alors, ça marche pas parce que le héros fait une connerie et que du coup, il va pas jusqu'au bout. Mais on sait que ça peut remarcher. Et ils retentent pas en se disant, bon, cette fois-ci, on bouge plus. Mais
après, ça joue avec le démon qui essaie de t'attirer par une autre forme, qui est peut-être le seul passage sympathique du film, le côté, ils essaient enfin, le démon peut prendre des apparences qui te charment pour justement te faire sortir des trucs qui peuvent te protéger. Mais oui, non, mais au-delà de ça, c'est nul. Déjà, ne serait-ce que le fait d'être obligé de créer une romance entre deux seuls persos qui se sont croisés 10 minutes, c'est insupportable, quoi. C'est, ah tiens, on va mourir tous les deux, on s'est sorti d'une situation, on se connaît absolument pas, viens, on baise.
Bah, ils sont beaux gosses.
Non, on s'en branle qu'ils soient beaux gosses, ça fonctionne pas comme ça, mais merde quoi, t'es sous traumatisme. Bah, je sais pas.
Non, tu dis ça parce que t'es pas beau gosse et que t'as pas failli mourir.
Non, mais le pire, c'est que ce cliché dans le film d'horreur, je le comprends, je le conçois, il existe depuis toujours. C'est juste que, bah justement, à partir du moment où il existe toujours, t'es pas obligé de le recocher quoi. L'idée, c'est de jouer un peu avec les codes si tu veux faire quelque chose de nouveau quoi.
C'est zéro surprise.
Ah oui, non, mais c'est même pas zéro surprise, c'est une éculation des codes en mal fait. Les jumpscares qui t'hurlent à la gueule tout le temps, et alors plus ça va, plus on te rajoute du rythme et des tambours, et ça te pète à la gueule au bout d'un moment, tu fais ouais, mais ça fait plus peur là, c'est juste ça fait sursauter. Mais c'est pas du sursauter parce que tu flippes, c'est juste du sursaut parce qu'il y a une image qui vient de te popper à la gueule. Tu t'en as plus rien à foutre. Enfin, il y avait des personnes qui étaient à fond derrière nous, hein, mais peut-être qu'à un certain âge ça marche encore, mais là c'est foutu. C'est quand t'as déjà vu, voilà, des destinations finales, quand t'as déjà vu quelques slashers qui jouent vachement sur le côté la mort arrive à n'importe quel moment et elle te poursuit, t'en as rien à foutre quoi de ça, c'est incroyable.
Countdown, le seul compte à rebours que vous regarderez, sera celui qui vous annoncera la fin du film, si vous n'avez pas quitté avant, ce qui est fort probable.
Oui, c'est nous, on est devant le portail qui n'ouvre pas, la télécommande marche plus et visiblement vous répondez pas à votre téléphone.
C'est notre maison.
Non, pour l'instant ils sont chez eux.
On a signé un contrat, non?
Mais quel contrat?
Soyez raisonnable et partez maintenant.
Sinon quoi?
L'audience aura lieu le 9 novembre.
Et c'est la trêve hivernale. On va payer les traits de notre maison pour loger deux squatteurs pendant qu'on vivra dans une caravane avec notre fils.
En vacances?
Pas vraiment.
On sort du cinéma publiciste et cette fois-ci nous sommes allés voir Fury. Fury d'Olivier Abou, un film de Home Invasion avec Adama Niané, Stéphanie Caillard, Paul Amy, entre autres. Pour m'accompagner, je suis avec Alex. Coucou Alex.
Salut.
Fury, c'est l'histoire d'une petite famille composée de Chloé, Paul et leur fils qui partent en vacances, qui reviennent de vacances avec leur caravane, ils sont partis en camping. Et quand ils reviennent, la baraque qu'ils ont prêtée gracieusement pendant 2 mois à des gens qu'ils hébergeaient initialement parce qu'ils avaient perdu leur maison, leur est volée, tout simplement, par ces gens qui, vu qu'ils leur avaient cédé un petit papier en leur disant... vous êtes chez vous, vu que vous acceptez de vous occuper des charges et vu que vous allez prendre soin de la maison, les gars font vers leur ordre légal et leur disent vous dégagez. Donc ils sont obligés de quitter leur baraque, d'aller s'installer dans un camping et du coup, de décision en décision, de mauvaise rencontre en mauvaise rencontre, Paul va se sentir arnaqué, va vouloir rendre justice et va constamment être divisé entre qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je peux faire. Un film de genre donc, un film sur la tension, je dirais, un film où on passe son temps à mettre Paul dans des situations où il va monter au fur et à mesure, donc on rajoute du background au fur et à mesure. Sur la dualité, exactement. On rajoute du background, on lui dit que aussi il est dans une situation qui n'est pas forcément très agréable avec sa femme, parce qu'il y a quelque temps, elle l'a trompé. En même temps, Paul est un mec relativement chiant. Donc on comprend sa femme, mais voilà, il est prof d'histoire, ses élèves lui chient constamment à la gueule, et un en particulier qui l'agace et qui le met au défi souvent, qui se reçoit régulièrement des remarques comme quoi c'est l'archétype du noir bien intégré, et tout ça passe son temps à maturer à l'intérieur de Paul, et la rencontre avec Mickey, joué donc par Paul Amy, va le faire basculer et qui va l'entraîner dans une sphère de violence, dans une sphère de drogue, dans une sphère d'alcool, dans une sphère où justement elle lui dit la seule solution de toute façon c'est de faire comme aux US, tu prends les flingues, tu vas buter les gens et tu récupères ta baraque mon grand. Voilà, des belles promesses, des promesses d'un cinéma de genre qui peut être assez percutant, d'un film qui peut parler également du racisme, d'un film qui parle justement du droit à la propriété, parce qu'en plus Paul en parle puisqu'il est prof et qu'il parle au tout début du droit à la propriété. Mais qu'en est-il dans le rendu, à mon cher Alex ?
Alors, personnellement, je suis parti avec une affiche, une très très belle affiche qui me donnait très très envie d'aller voir ce film. Film qui est un film indépendant français, j'ai des bonnes a priori par rapport à ce... En général, avec les films, on va dire, je sais pas si on peut parler de petit budget, parce qu'il y avait une très bonne DA, des acteurs corrects, etc. Non, j'enlève les acteurs corrects.
Ça reste un film de genre français, hein. On sait pertinemment que si peut-être il a eu plus de moyens que d'autres... Film de genre français égale film fauché en grande majorité.
Quoi qu'il en soit, très belle affiche, très belle DA, au niveau graphique c'est sublime je trouve. On est vite mis dans l'ambiance de cette fameuse dualité qui le piège entre blanc et black puisqu'il est métisse. Mais ça c'est une dualité qui se crée un peu tout seul quand même je trouve. Dualité entre je suis le bon papa parfait, je me suis bien intégré et justement cet état de fait qui est qu'on lui a volé sa maison, ce qui est absolument anormal. Et ce synopsis-là me plaît bien parce qu'on part sur une douleur qu'on connaît tous, c'est l'injustice tout bêtement, et l'injustice d'être volé, de rien pouvoir faire. Et quand on va voir la justice, elle nous dit bah, légalement ce n'est pas possible parce que il va faire froid et que les gens ont besoin d'une maison, donc vous restez dans votre caravane et eux peuvent garder votre maison. Donc c'est un beau synopsis, une belle idée, une sorte de Get Out mais à l'envers. D'ailleurs ça s'appelle Get In en français, en anglais pardon. mais voilà, une très belle histoire sur le papier. En réalité, on a passé, je pense qu'on peut dire avec Thierry, 45 minutes, une heure facile. Personnellement, en tout cas, j'ai gratté la coudoir en me disant que c'est quand que ça commence, c'est quand qu'il se passe quelque chose, parce que tout le long, c'est la mise en place. La mise en place qui est tirée avec des grosses ficelles, mais alors c'est des cordages, c'est terrible. Et un jeu d'acteur qui est... C'est pas qu'il est toujours mal fait, c'est qu'il est assez mal écrit, je trouve, très français. Dès la première scène, d'ailleurs, on le voit, hein, ils sont dans le camping-car, ils arrivent, la porte est fermée, et... dans le texte, c'est tout de suite un énorme suspense. C'est quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors que non, elle appelle juste, le type répond pas.
Et... Ouais, c'est très verbeux, hein, c'est très écrit. Oui. Et surtout, ça manque de consistance dans les dialogues. Et c'est vrai que du coup, ça permet aux comédiens, ça ne permet pas aux comédiens de s'exprimer. Donc on a du jeu qui semble extrêmement faux tout le temps.
Très écrit.
Et c'est dommage parce que par exemple, moi je pense au personnage principal, donc le personnage de Paul, je trouve que le comédien est crédible dans son jeu de regard. On sent sa dualité, on sent son tiraillement, on sent cette espèce de violence en lui qui est une violence qui n'attend juste que de se réveiller. Mais dès l'instant qu'il a du dialogue, dès l'instant qu'il a du texte, on sort totalement du personnage. Et c'est un petit peu le problème de beaucoup de personnages, c'est que les personnages manquent énormément de consistance et que même si les situations sont intéressantes sur le papier, dans le rendu c'est différent. Moi je pense justement aux deux personnes qui ont volé la maison, qui sont donc initialement la babysitter et son copain, si j'ai bien suivi. Qui a manqué d'un logement, ils les ont hébergés gentiment, ils leur ont dit on vous prête la maison pour les vacances, les mecs se sont arrangés, quand ils reviennent, pof, finalement on est chez nous, on est des connards. Bon, visiblement ils se connaissaient, les mecs les ont, enfin, le couple les a manipulés méchamment pour pouvoir s'emparer de la baraque, mais c'est vrai qu'on ne voit jamais leur situation, parce qu'on voit le personnage du gars, donc Eric, qui est extrêmement ferme, qui chaque fois qu'on le voit, on lui dit juste casse-toi, maintenant je suis chez moi, va te faire foutre, comme si c'était totalement légitime, et on voit donc... la fille Sabrina qui, elle, a l'air de constamment regretter ce qui se passe. Et du coup, on ne voit jamais ces personnages dans un autre cadre et donc on ne sait pas quelles sont leurs motivations. On se doute bien que c'est des personnages qui n'ont pas de baraque et qui sont désespérés et qui ont trouvé la seule opportunité de pouvoir avoir un toit pour l'hiver. Sauf qu'on est à la base dans une situation où les deux couples s'apprécient, puisque c'est des couples qu'ils ont engagés à la base pour s'occuper de leur gosse.
Je pense qu'ils connaissent Sabrina, mais pas le mec en question. Mmh. Je pense que le mec, c'est un peu le manipulateur, c'est ça qu'ils essayaient de montrer par la caméra. Mais c'est vrai qu'au-delà de la caméra, on ne sait pas ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et c'est pas plus mal à la limite, je trouve. On considère l'état de fait, c'est-à-dire que elle est manipulée par cet homme et qu'elle l'accepte, même si elle en souffre, Sabrina, donc la fille qui a volé la maison. Moi, ça me paraît pas plus mal. Si on entrait trop dans les mœurs, dans la psychologie des voleurs, finalement, on sentirait moins l'injustice de Paul.
Ah, je te suis là-dessus. Après, c'est vrai que moi, je trouvais que ça manquait juste un minimum de consistance pour juste qu'on puisse aussi comprendre comment ça peut mener à ce genre de situation. Mais en effet, c'est vrai que vu qu'on est du point de vue de Paul de toute façon tout le temps, même si Paul, on l'expliquait, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas comprendre de toute manière la façon dont ça se passe, parce que c'est quand même un mec qui se retrouve dépossédé du bien familial, et enfin qui appartenait à son père également, et qui de toute façon veut juste récupérer sa baraque, ce qui est tout à fait directement légitime. J'aime pas ce qui se passe, je trouve ça pas bon, mais j'ai pas envie de partir. Oui, parce que là où il arrive à poser une ambiance et une mise en scène qui est tout à fait correcte, ce qui est dommage par rapport au matériau sur le papier qui se plaît, ou même les passages dans les clubs sont super beaux à regarder. T'as le passage dans le club où il y a cette espèce de cabine téléphonique là, qui régit un petit peu tout le lieu, qui est rempli de flotte, et du coup leur délire c'est d'aller sous l'eau, boire une cadette complète de bière et remonter. Voilà, c'est super beau. Tous ces passages là, ça joue sur les néons, ça fait limite penser à du Winning Refn. C'est bien gaulé, il n'y a pas de souci. Olivia Bouss sait faire de l'ambiance, il a une bonne équipe, il a un bon chef-op, ça colle bien. Par contre, dès l'instant que la caméra doit bouger, qu'il y a de l'action, c'est vrai qu'on se retrouve avec des plans qui sont très cutés, qu'il y a des très très bonnes idées, notamment sur la gestion du feu. Et il y a un travail sur le feu, sur la brûlure, sur l'incandescence, et qui te montre aussi le côté éphémère de la menace, qui est super intéressant. Mais la scène s'expédie assez vite, et j'ai pas non plus ressenti qu'il y avait un setup payoff intéressant. Je me suis pas senti satisfait de voir ça à la fin du film. Je sais pas quelle a été ton ressenti, toi.
Alors, personnellement, effectivement, en demi-teinte, on pouvait pas dire mieux, parce que, comme tu le disais, le chef-op, l'éclairage, l'ambiance, de manière générale, était... Tu me dis tout à fait correct, moi je la trouve juste géniale. Et ça, c'est censé me mettre dans l'ambiance. Et encore une fois, l'écriture des personnages me fait dire, est-ce que je suis sorti complètement du film pendant une heure à m'énerver vraiment en me disant c'est parce qu'ils sont mal écrits ou est-ce qu'ils sont mal joués? Je pense que c'est non, ils sont mal écrits. Et c'est dommage parce qu'on est complètement demi-teinte entre un film qui a une super idée de base, une super forme sur la mise en scène. Et je bloque en fait sur effectivement le reste du film, en fait le suivi des personnages, l'intérêt pour eux, leur façon de parler, la façon dont ils se présentent, dont ils montrent leurs idées, leur philosophie. Ça bloque parce que je sais pas si c'est le scénariste ou si c'est juste mal adapté, j'en sais rien, mais ça m'a complètement fait sortir du film, et du coup je suis resté littéralement pour le climax parce que le synopsis est bon. Sinon je serais parti, mais alors au bout d'une demi-heure, une heure.
J'ai vu beaucoup de retours de critiques qui justement sont très positifs sur le film. Je me demande si on s'emballe pas parce que c'est justement un film de genre français qui en a malheureusement très peu, et c'est vrai qu'il faut totalement encourager ce genre de film. Mais là où par exemple je pense à Arès qui était un film certes assez fauché, qui a tenté de la SF, qui attendait des trucs intéressants et qui se débrouillait quand même vachement bien parce qu'il jouait sur ses effets et qui avait surtout un scénar béton qui tenait bien. Là je me dis, est-ce que sous prétexte qu'on doit encourager le cinéma de genre français, on doit encourager un cinéma de genre français qui n'est pas très bon? Son scénar est chouette, ses personnages sont pas non plus inintéressants, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, il y a moyen en tout cas qu'avec une équipe pareille on puisse faire un film qui soit en tout cas très joli à regarder, très agréable, et il suffit d'avoir un bon scénar pour que ça tienne. Donc j'encourage ces personnes à travailler, évidemment, et à faire des films, et peut-être pas ça. Tu veux conclure?
Une petite déception quand même, parce que effectivement il y avait tout pour réussir, et au final je me suis rongé les ongles en fait, et tordu dans mon siège, je me suis affaissé littéralement en disant putain, mais c'est quand que ça vient, quoi. Donc petite déception, je l'avoue.
Fury de Olivier Abou, un film qui nous promettait beaucoup, peut-être un petit peu trop, et dont on ressort assez déçu.
On arrive au bout de cette quinzaine. On s'en sort. Il y a du bon et du mauvais. C'est assez inégal, mais il y a eu de tout. Il y a eu de tout durant cette semaine. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, Thierry?
Ah, ce qui est bon est vraiment bon. Hein. Moi, je retiens beaucoup La Belle Époque de Nicolas Bedos, que j'ai beaucoup aimé. Je retiens aussi beaucoup Adults in the Room, hein, parce que ça, c'est un film qu'on a vu la semaine dernière, qui me marque encore pas mal. J'ai beaucoup aimé le traitement. J'ai bien aimé comment c'était foutu. Le Mans 66, c'était sympa à regarder. Mais je pense que l'énorme coup de cœur a... ex aequo avec La Belle Époque, c'est J'ai perdu mon corps, pour l'expérience.
Écoute, moi j'aime bien la moitié de J'ai perdu mon corps. Voilà. Après, si on doit prendre un film dans son ensemble, je serais plus sur La Belle Époque. C'est mon côté nostalgique, un peu vieille époque, un peu vieux jeu. Bon, pas assez vieux pour remonter jusqu'à J'accuse, hein, qui a été assez décevant en réalité. Et Le Mans 66, qui était plutôt une bonne surprise. Voilà, mais on l'a déjà dit dans le podcast, puisque vous avez écouté l'épisode, je ne m'en fais pas. C'était certain les machos. Merci Thierry.
Merci Thomas.
et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast, nous écouter, nous réécouter, réécouter l'épisode spécial Corée de la semaine dernière qui était en deux parties. Vous pouvez également mettre des étoiles et des commentaires dans les applications, notamment Apple Podcast. Vous pouvez également partager l'émission et nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, @clacpodcast, C-L-A-A-C, podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux films. Bisous, bisous, bisous.
Bisous.
Non, il spoil la fin, non.
Ouais, non, non, est-ce qu'on doit dire ça? Mais c'est pas... On se doute bien que c'est... Oui. Bah non, je vais peut-être pas dire ça. Attends. Je vais remettre mes idées en place.
Alors, comme t'as parlé, je sais pas où te couper, en fait, je t'avoue.
Non, attends, du coup, je disais quoi? Je disais... C'est la même machin, ça.
Tu disais pas tac, 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 tac.
Les hommes plantent. Les hommes plantent. Les hommes plantent.